Hey, salut, vous écoutez bien le 89.5, on est le dernier lundi du mois, il est 13h, c'est joie, rage et courage. Une heure d'émission pour vous parler d'un sujet qui nous gratte, d'initiatives qui nous bottent et d'énergie qu'on veut se partager. Aujourd'hui, on pensait continuer le cycle sur les projets type carrière de Saint-Julien Molamolette avec une émission consacrée à la 45, mais finalement on a changé d'avis. On repoussera cette émission sur la 45 le mois prochain, car il s'est passé quelque chose qui nous a intéressés, motivés, et voilà. Cette chose, c'est la brève qui est circulée sur les médias locaux, sur une manif de migrants mineurs dans le petit village de Saint-Denis-de-Cabanes, au nord de la Loire. Et donc on va aller faire un tour là-bas et parler de cette situation. Mais avant, on s'est dit que ce serait bien de refaire un petit tour à Saint-Julien-Molamolette rapidement pour vous parler un point de l'évolution de la situation.
Le feu aux poudres.
Non mais c'est pas bientôt fini ce bazar. On s'entend plus.
C'est vrai ça. On va finir par se mettre en pétard.
Et oui, on avait laissé nos amis de Saint-Julien Molamolette avec un point sur la situation, sur l'enquête publique. Donc, sans surprise, hein, comme toutes les enquêtes publiques ordonnées par l'État, ça donnait que l'avis est positif pour l'extension de la carrière. Mais cependant, les gens là-bas, les piraillons et piraillonnes ne lâchent pas l'affaire. Et soyez attentifs, car selon la décision du préfet, il pourrait y avoir des mobilisations, notamment une journée de manifestation et de mobilisation prévue là-bas, et puis le lendemain de l'annonce de la préfecture, si celle-ci valide l'extension de la carrière, comme ça risque d'être le cas, il y aura un rendez-vous à Saint-Étienne. Voilà, donc soyez vigilants, en tout cas restez connectés, et notamment sur le site du numéro 0, le numéro 0.l'autre.net.
A commencé dès l'aube. Plusieurs centaines de réfugiés patientaient aux portes du camp.
Ça se passe bien. Ça s'est bien passé même avant même l'ouverture du SAS, parce qu'on savait qu'on aurait beaucoup de migrants. Ils étaient bien au rendez-vous, plusieurs centaines de migrants, et ça continue d'arriver vraiment en grand nombre.
Avant d'accéder aux autocars, première étape, passer par un SAS. Un hangar désaffecté où sont divisés en quatre files pour les adultes seuls, les familles, les personnes vulnérables et les mineurs.
Je suis vraiment content de rester en France.
Chaque migrant a le choix entre deux régions.
Alors actuellement, on propose la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine.
Un peu plus loin, les riverains observent la scène, inquiets. Ils ont peur que des petits camps de migrants se reforment.
La jungle est là. Où est-ce qu'on voit
La crainte, c'est ça, si vous voulez, c'est que certains restent sur place, est-ce qu'ils vont absolument passer en Angleterre, hein, et puis qui de nouveau squattent les terrains de privés, hein, et puis que pour eux ça ne serait pas des solutions, et pour les privés ça va être des soucis éventuellement.
Certains habitants sont venus de loin pour assister au démantèlement, comme ce couple qui vit à 30 km.
Je voulais vraiment voir comment ça se passait, parce que on en a marre quand même de tout ça.
Ouais.
Et puis on venait beaucoup à Calais avant, et maintenant on vient voir vraiment s'ils partent bien, quoi.
Si les opérations se passent dans le calme depuis ce matin, hier soir, la situation était tendue. Des heurts se sont produits aux abords de la jungle. Les policiers sont intervenus en tirant des grenades lacrymogènes. Conscient des risques, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a réaffirmé la nécessité du démantèlement.
L'objectif est de procéder à la mise à l'abri de ceux qui relèvent du statut de réfugié en France et qui n'ont pas vocation à être dans la précarité, la vulnérabilité, à Calais entre les mains des passeurs qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains.
60 bus devraient quitter aujourd'hui la jungle de Calais, qui accueillait jusque-là entre 6 000 et 8 000 migrants et réfugiés.
Et ben voilà, c'était les infos de France Télé sur l'expulsion de la jungle. Où ben voilà, c'est vraiment la voix du pouvoir. Effectivement, Cazeneuve qui nous parle de traite des humains, quand on voit exactement comment l'organisation de l'État avec des partenaires associatifs, entre guillemets, des partenaires associatifs, et ont organisé le démantèlement et le dispatchage des migrants, notamment avec un défaut d'information, avec un dispositif légal assez spécifique à cette situation. Avec aussi de nombreuses présences policières et de contrôles et d'harcèlement les jours précédents et les jours suivants. Car, si dans les médias, le grand cirque était bien huilé et bien orchestré, à côté de ça, pour les personnes sur place, c'était différent. Et du coup, on va écouter un extrait d'une autre émission, d'une émission de radio de Fréquence Paris Pluriel. Il me semble que c'est l'actu des luttes qui nous parle, en fait c'est une personne qui nous raconte un peu comment c'était, comment ça s'est passé là-bas. Voilà, alors on va écouter ça.
Et on a eu l'information en fait en traînant, il y avait des opérateurs d'État qui traînaient là, qui discutaient entre eux, et donc on a compris que le mardi soir il y avait eu tout un groupe de mineurs qui n'ont pas été amenés jusqu'au... qui allaient vers le hangar et qu'on finalement pas eu de place pour dormir ensuite, qu'on a dû dormir sous le pont de l'autoroute, quoi. Qu'on a laissé dormir sous le pont de l'autoroute alors qu'il y avait des places pour coucher dans le cap.
Mmh. Et apparemment, ces mineurs aussi, quand ils auraient été emmenés au hangar de tri, ils auraient été matraqués par les CRS.
Donc ça fait... Il y a eu des infos qui disaient qu'il y a eu des violences à l'intérieur du hangar sur les mineurs.
En gros, ouais, on a un peu l'impression que l'information était sortie que, en gros, les mineurs, ils étaient surveillés clairement par des policiers dans une espèce de dortoir, et qu'en gros c'était des policiers qui s'occupaient de surveiller des enfants en fait, et qui ont fait usage de la force. Paysage de la force sur ces gamins, quoi.
Donc nous on a vu des mômes traîner aux abords du cap là, et qui n'étaient pas enfin, qui étaient laissés à eux-mêmes, quoi, qui avaient par ailleurs dont on prenait vraiment pas soin, avec des gamins qui étaient en t-shirt, qui avaient pas de chaussures, qui grelottaient de froid, tu vois.
Non mais c'est-à-dire qu'apparemment dans ce que vous décrivez, tout a été fait pour isoler les gens, pour les rendre le plus démunis possible, de sorte à ce que tout se passe, que l'opéra, comme tu l'avais dit au départ, qu'on assiste à, selon eux, une opération de démantèlement réussie. C'est-à-dire qu'il y ait un minimum de résistance et que toute tentative de résistance soit coupée en amont. Que ce soit en occupant les gens, en les fichant, en les divisant au sein de la jungle, en expulsant certaines parties, pas d'autres, et puis aussi par cette ambiance de terreur en fait, qui s'institue au fur et à mesure des jours. Même si on sait que par ailleurs, la jungle de Calais, c'est un espace sur lequel il y a régulièrement énormément de violences policières, et où il y a des opérations policières qui sont menées à des fins médiatiques tout au long de l'année. Il semble que voilà, on a vraiment essayé de tout faire pour que en amont on soit certain que les gens ne puissent pas résister, ne puissent pas réagir collectivement, et notamment aussi avec un travail en amont avec les associations et une collaboration entre la préfecture et les associations, où ça fait déjà un petit mois en réalité que on dit aux gens aux migrants de la jungle que ben voilà, ça va être la fin, que faut s'y faire, et que donc à un moment donné après, si tu restes, ben tu sais très bien ce qui va t'arriver, et puis tu prendras le tarif parce que t'as mal joué, quoi.
Et voilà, dans cette interview donc menée par les gens de l'Actu des Luttes, interview qu'on retrouve avec une émission en entière sur le site Son en Lutte. Voilà, c'est daté du 16 octobre. Où du coup, l'animatrice là vient un peu de tout dire avec différents interlocuteurs, notamment des membres de la Street Medic, c'est-à-dire les personnes qui portent soin aux personnes blessées lors de manifestations et aussi ailleurs lors de rassemblements comme celui-ci. On voit très bien comment l'État a orchestré l'expulsion, orchestré aussi médiatiquement l'évacuation de la jungle, comment les migrants se sont retrouvés isolés, certains partant avant l'expulsion pour éviter de se faire envoyer dans les fameux centres de répit ou centres d'orientation. Comme ils l'ont déjà fait à plusieurs reprises, et du coup ils savent ce que c'est et ils veulent pas passer par là parce qu'ils savent très bien que c'est une impasse, notamment par rapport à leur situation et à leur volonté d'aller à Calais, en Angleterre. Et du coup ces petits sons permettent vraiment, cette émission elle est très intéressante car elle permet de décrypter vraiment comment l'expulsion s'est organisée et comment la question des migrants mineurs isolés la question de l'État organisé, l'isolement de tous ces à fractionner le groupe des migrants et à les a répartis et les a isolés. Notamment du coup cette question des migrants mineurs isolés, on va écouter un autre extrait de cette émission où une personne présente là-bas raconte comment s'est passé le tri des mineurs à certains moments dans le fameux SAS.
Ok. Et toi, en te déplaçant à cet endroit, tu as pu avoir quand même des informations sur peut-être comment ça se passait ce matin ou sur des retours par rapport à des départs qu'il y aurait eu hier ou quoi que ce soit?
Bon, on n'a pas énormément d'informations. Juste moi, ce que j'ai pu avoir comme info, c'est qu'hier, du coup, il y a 1215 adultes qui sont partis vers des CAO. Qu'en tout, France Terre d'Asile, donc, qui s'occupait des mineurs donc dans les containers, c'est-à-dire sur la zone de la jungle, il y avait une zone container qui était pour les mineurs. Il y a 1500 personnes qui ont été recensées. Alors là, on a eu des infos, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'info, un petit peu comment s'est fait le tri en fait, de qui est mineur, qui ne l'est pas. On a eu des infos comme quoi dans les files d'attente, donc il y avait des files d'attente mineurs, files d'attente adultes, des flics faisaient en fait au faciès, toi tu es mineur, toi tu l'es pas. Et certains ont fait des recours, c'est pour ça qu'on l'a su en fait. Il y a certaines personnes qui étaient un peu informées de leurs droits et qui ont contesté en fait cette manière totalement arbitraire de dire que c'était mineur ou majeur. Du coup, il y a 15 personnes qui ont fait un recours et je crois que 12 ont finalement pu être acceptées comme mineurs. Et la situation pour les mineurs, elle est, il y avait donc 40 personnes qui ne savaient pas où dormir cette nuit, un peu partout dans la ville de Calais, qui se retrouvaient un peu sans maison, certains ont dormi sur des trottoirs. Et surtout hier, la situation, c'était la ville de Calais, pas très grande, était quadrillée de patrouilles de police en mode RAF, contrôle au faciès toute la nuit. Donc il y a eu au niveau des arrestations, on a très peu d'infos. On sait qu'il y aurait eu au moins 15 personnes arrêtées, personnes migrantes. Et au niveau des infos sur les CRA, on n'a pas énormément d'infos, mais ce que disent les camarades un peu sur de l'équipe juridique, disent qu'il y aurait des personnes qui seraient arrivées cette nuit au CRA de Coquel et de Vincennes. Mais ça, c'est des infos qu'il faudra confirmer dans les jours qui suivent.
Mana, mana, mania. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي جيت من بعيد لبلاد قدام وقلت مكان هذا المقام. قالوا دنيا هنيا بلاد وطعم وكلش يمكن هذا المقام. العيشة هانية وابتسام قالوا الدنيا بحال نام والأرض الناس يا سلام. أمان 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 أمان.
Gotham City. Eh bien oui, donc reprenons notre petit récit et on va donc se retrouver à l'étape suivante, du coup l'évacuation dans les différents centres d'accueil. Les migrants partirent en bus en plusieurs jours, répartis du coup dans des centres où ils sont censés être se reposer et réfléchir sur leur situation et voir à déposer leur asile, leur demande d'asile, sachant que beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de demander l'asile en France, vu notamment l'accueil qui leur a été tenu par l'État, notamment à Calais. Et en fait, la plupart d'entre eux ont comme seul désir d'aller en Angleterre, pour des raisons familiales, de facilité de langage, etc. Et aussi pour des raisons familiales. La situation du coup est semble-t-il bloquée pour beaucoup d'entre eux. Et depuis quelques temps, malgré l'isolement, on commence à avoir de petits échos de protestations à l'intérieur de ces camps. Et on peut entendre des échos de ci de là, notamment du côté de la Loire-Atlantique, dans le sud-ouest, en Mayenne, dans l'Aisne, où il y a une petite révolte qui a été réprimée, notamment avec un des migrants arrêtés par la police pour soi-disant violence, mais aussi à Rennes, où les personnes ont écrit un petit message et un petit communiqué. Donc on va le lire. Mercredi 16 novembre 2016 à Rennes. Nous sommes les personnes qui ont passé environ deux ans, un an, 6 mois dans la jungle de Calais. La vie à Calais est trop difficile, mais nous voulions aller en Angleterre. À Calais, il y a eu une rencontre avec des responsables de l'OFPRA de Paris et une personne du gouvernement français. Presque tout le monde a donné ses empreintes en Italie. Ils nous ont dit qu'ils allaient oublier le fait qu'on ait donné nos empreintes si on allait dans les villes qu'on pouvait choisir, et qu'ils allaient nous donner des documents nécessaires pour rester en France ou voyager, sachant qu'en fait la demande d'asile doit être faite dans le premier pays, normalement avec les accords de Dublin, dans le premier pays où les personnes rentrent, et donc en Europe. Et donc c'est souvent là, avec les empreintes prises en Italie, en fait du coup ça demande en fait aux migrants de retourner en Italie. Donc je continue la lecture. À cette réunion-là, il y avait des gens à qui la même promesse avait été faite en 2015 et qui avaient appris que leur Dublin, donc c'est le fameux accord sur les empreintes digitales, n'allait pas être cassé et ont réussi à retourner à Calais. La personne de l'OFPRA a promis que cette fois-ci, ça ne se reproduirait pas. On leur a fait confiance parce que ce n'étaient pas des porte-paroles qui étaient venus nous voir, mais des hauts responsables. Maintenant, la situation est le contraire de ce qu'ils nous ont dit. Quand on est allé à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, on nous a dit que la décision était qu'ils allaient demander à l'Italie si on pouvait être réadmis vers ce pays. Personne ne voulait rester en France, mais ils nous avaient promis qu'on pouvait y rester. On a eu des rendez-vous par communauté, par pays, pour nous expliquer qu'il ne fallait pas fuir, qu'ils avaient certainement nos empreintes ailleurs, mais que c'était pas grave, que ça arrivait de se faire contrôler, mais on nous a promis que la procédure de Dublin allait être cassée. Nous, on les a crus, mais comme on ne voulait pas rester ici, vu que la France était un pays de passage, mais si on était accepté ici, on voulait bien y faire notre demande d'asile. Mais au final, on se rend compte que c'est faux, comme c'est le contraire qu'ils sont en train de nous faire vivre. Nous, on ne mangera plus pas, et puis il n'y a rien à faire, donc on ne peut que faire ça, s'arrêter de manger. Du coup, hier, 15 novembre, on a décidé ensemble d'arrêter de manger, et aussi aujourd'hui, on a dit aux bénévoles qui nous donnent des cours de français qu'on ne voulait pas faire le cours, qu'on était fatigué par la situation et qu'on n'avait pas que ça à faire. La responsable de Coalia, donc c'est l'association Rennes qui s'occupe du centre, on ne sait pas vraiment qui ils sont. Au final, les responsables de Coalia ne font rien. On ne sait pas si c'est des travailleurs sociaux ou pas. Il y a un responsable qui s'occupe des repas et qui remplit les demandes d'asile des personnes qui sont en procédure normale. Il pose des questions en anglais pour remplir la demande. Sinon, on peut avoir une traductrice en arabe. Là, on est énervé, on est stressé à force de pas savoir ce qui nous attend. On veut que les personnes qui s'occupent de nos demandes viennent nous voir et nous parler, et ne pas avoir comme interlocuteur les responsables de Coalia qui ne savent rien de nos demandes, qui ne peuvent s'engager. par la grève de la faim. On veut que les supérieurs soient avertis pour pouvoir leur parler du fait que la promesse n'a pas été tenue. Les migrants érythréens, soudanais et somaliens de Calais à Rennes. Ensuite, il y a un PS. Aujourd'hui, mercredi 16 novembre, les responsables de Colia du CAO, donc Centre d'accueil et d'orientation de Rennes, ont refusé la tenue d'une rencontre avec une avocate et une traductrice sous prétexte que le CAO était un lieu privé et que chaque activité proposée devait être validée par ses responsables. Les responsables les personnes hébergées au CAO ont refusé de s'alimenter depuis 24 heures et boycottent le peu d'activités proposées par Coalia. Face à ces refus d'accès à l'information et à leurs droits pour les personnes migrantes, nous nous organisons de notre côté pour soutenir leur démarche. Le texte ci-dessus a été écrit collectivement par les personnes migrantes, traduit de l'anglais et tigrinien en français à l'aide d'une traductrice. Alors voilà, ça c'est un texte qui a été trouvé sur l'Expansive, un site d'info rennais. Et du coup là on voit, c'est assez bien décrit, la situation d'impasse, les mensonges et la lourdeur administrative, et aussi la collaboration et les pratiques plus que douteuses afin d'étouffer les révoltes des associations qui gèrent les centres d'accueil. Voilà, et c'est des choses qu'on va pouvoir peut-être retrouver par ici, car oui, à Saint-Étienne aussi, enfin dans la Loire aussi, il y a eu des évacuations de personnes. Voilà. Avant ça, on va revenir aussi sur donc ce mouvement de grève de la faim. Il a fait aussi tache d'huile, c'est-à-dire qu'il a été repris dans d'autres endroits, et notamment dans le Tarn-et-Garonne. Et on va vous passer un extrait d'info locale. Là.
Voilà pour les titres, mais on va commencer avec cette grève de la faim observée par 19 migrants isolés, des mineurs étrangers pris en charge dans la jungle de Calais et hébergés depuis son démantèlement à Réalville dans le Tarn-et-Garonne. 10 d'entre eux ont pu se rendre en Angleterre, pas les autres, qui observent donc une grève de la faim depuis vendredi. Écoutez cette interview de la responsable qui les encadre, recueillie par Stéphane Compan et Eric Korevitz.
L'état d'esprit est extrêmement tendu, les jeunes sont extrêmement déçus puisqu'on leur avait promis d'avoir une justification individuelle des raisons pour lesquelles ils n'étaient pas retenus pour aller en Angleterre. Et aussi bien les critères de choix pour les 10 qui ont été envoyés en Angleterre que les critères de refus n'ont pas été donnés. Donc les jeunes sont extrêmement déçus, ils ne comprennent pas pourquoi il y en a 10 qui sont partis et pourquoi eux ne sont pas partis. Certains ont... La seule famille qu'ils ont se trouve en Angleterre aujourd'hui et ils considèrent que ce n'est pas normal qu'on les retienne ici.
Voilà, ben, une situation que vous allez voir, ça va être qui va faire écho avec la situation dans la Loire, car oui, à Saint-Étienne, dans la Loire aussi, il y a eu des camps de migrants. Hop.
Dans le reste de l'actualité du département, on vous l'annonçait hier, 133 migrants vont être accueillis dans la Loire. Une centaine sont attendus dans un centre de vacances EDF près de Roanne, à Saint-Denis-de-Cabanne. Et pour rassurer et écouter les habitants, le sous-préfet de Roanne et le maire de la commune ont tenu hier soir une réunion publique. Réunion publique qui a été plutôt mouvementée. Des propos douteux auraient été tenus dans une ambiance assez tendue. Le préfet de la Loire, Evance Richard, qui était sur notre plateau hier soir à ce sujet, ne compte pas en rester là. Il a annoncé ce midi à nos confrères de France Bleu que des plaintes seraient déposées.
Et voilà, effectivement, c'est cette installation de camp, notamment, du coup, il y en a deux, il y a Valfleury et à Saint-Denis-de-Cabanne. De mémoire, il y en a deux. Hein. Le camp de centre d'orientation donc à Saint-Denis-de-Cabanne, c'est donc un centre pour mineurs. Et comme on l'a entendu, il y a eu des protestations, notamment organisées par l'extrême droite. Le préfet s'est offusqué et a décidé de porter plainte contre des propos tenus. Par contre, on ne sait pas s'il a porté plainte contre Vauquier qui a tenu le même genre de propos ou contre d'autres agissements qu'il a pu y avoir par rapport aux migrants et notamment par la police. Voilà, Du coup, la semaine dernière, lundi dernier, il y a eu un événement à Saint-Denis-de-Cabanes, c'est un petit village tout au nord de la Loire, un village de 1200 habitants, car dans l'après-midi, d'un coup, ces mineurs qui étaient si invisibilisés, hein, qui restaient dans leur... pour beaucoup dans leur centre, etc. Ils sont sortis dans la rue et ont décidé de marcher dans le village et d'aller rejoindre la ville qui est un peu plus loin, Charlieu, donc c'est à 5 bornes, en manifestation, en cortège, sur la départementale. Et la préfecture a appelé les flics qui ont essayé de les contenir. Mais eux, ils ont continué à manifester. Les flics qui ont essayé de négocier pour qu'ils rentrent dans le calme, ils ont décidé de rentrer, mais en manifestant. Donc ils sont partis à Saint-Denis-de-Cabanes. L'association qui gère le centre a envoyé des bus et des minibus pour les récupérer, sachant que ils gênaient, ils étaient visibles d'un coup, leur situation, leur impasse administrative et le mensonge organisé, leur situation vraiment de merde était flagrante, et du coup il faut surtout pas faire de vagues, et du coup l'association a envoyé des minibus pour les ramener, sauf qu'ils ont refusé de remonter dedans et ont rejoint sous la neige du coup leur centre d'accueil. Cette manifestation, elle était spontanée, mais du coup elle fait écho, elle se rajoute à plein d'autres manifestations qui se passent comme on l'a vu ailleurs, que ce soit dans d'autres centres de mineurs comme dans le Tarn-et-Garonne comme on l'a vu, et à côté de Montauban, mais aussi dans d'autres centres d'accueil et d'orientation. Les situations en fait elles sont compliquées, car là notamment pour les mineurs, l'Angleterre qui a dit qu'elle accepterait le regroupement familial, elle commence à bloquer un peu. On va écouter une personne rencontrée à Saint-Denis-de-Cabanes. C'est Joël, qui est membre d'un collectif citoyen. On va écouter ça. Il nous raconte un peu comment ça s'est passé, comment ils s'organisent, et puis la situation des migrants là-bas.
2016, voilà.
Fin août 2016.
Ouais. Qui allait avoir un accueil de migrants sur la commune de Saint-Denis. D'accord. Voilà. Donc après, ça s'est confirmé qu'ils allaient arriver fin novembre, début décembre. Et il y a eu une réunion publique au mois de novembre.
Voilà.
Et c'est à partir de cette réunion publique qui a été houleuse qu'il y a un comité citoyen de bénévoles qui s'est formé. Voilà, donc je fais partie.
En réaction du coup à l'accueil houleux des...
Voilà. Parce que le maire de Saint-Denis, lui, avait vraiment la volonté que la cohésion sociale reste, que le village se sépare pas en deux.
Ouais.
Voilà. Donc il y a des gens de Saint-Denis, des gens des communes aux alentours, qui sont là pour, en tant que bénévoles, pour filer la main à l'équipe éducative qui est en place.
Et du coup, c'est quoi les activités du comité ?
Eh bien, il y a le sport, il y a tout ce qui est langue, il y a la vie quotidienne, loisirs aussi, voilà, éducatif, loisirs. Voilà, c'est ça à peu près les groupes.
Et vous êtes combien dans ce comité citoyen ?
Oh, on est plus de 120.
Ok.
Voilà.
Et du coup, le fait qu'il y ait eu la manif, toi, tu en penses quoi ? Et est-ce que tu peux...
La manif de lundi.
Ouais.
La manif de lundi, là, bon, moi, je te dis, hein, ça a été un élan spontané de la part des migrants qui ont vu donc des leurs partir, leurs dossiers acceptés, 12 qui sont partis, là, il y a une quinzaine de jours.
Ouais.
Et je veux dire, ils sont impatients qu'il y ait une solution par rapport à leur dossier. Mmh. Et bah, ça se comprend, bien sûr. Et sachant aussi qu'il y en a qui ne pourront pas y aller, quoi, en Angleterre. Donc maintenant, il y a une ouverture sur l'Irlande, peut-être.
Ouais.
Voilà, quoi.
Et comment ils l'ont su que ça a été refusé
Parce que y a les autorités anglaises sont venues, ici,
ouais.
Là,
okay.
Qui ont étudié leur dossier.
Ouais.
Et il y en a eu 12 qui sont partis, qui ont été favorables. Parce que pour aller là-bas en Angleterre, il faut qu'ils aient de la famille sur place. Mmh. Hein. Père, mère, bon, ça c'est pratiquement exclu parce qu'ils sont restés au pays.
Ouais.
Mais frères, sœurs, oncles, tantes, ouais. Voilà. Les cousins, ça ne marche pas. Et il faut que les familles aussi soient solvables,
ouais.
Voilà. qu'elles soient pas à charge du pays. Donc ça restreint beaucoup l'accueil. Quoi.
Ouais.
Voilà.
Et, Et du coup, en fait, ici, l'ambiance localement, elle était très tendue au moment de...
Au début.
Où est-ce que ça en est
Maintenant, il y a eu un article sur Libération samedi dernier, qui est très bien d'ailleurs. Ça s'est détendu. Quoi. Ouais. Les gens de Saint-Denis sont aperçus qu'en fin de compte, ce n'était pas des barbares qui arrivaient. C'est des jeunes ados, comme les ados qu'on a chez nous. Là. Mmh. Ils sont très polis avec les commerçants, avec les gens du pays.
Ouais.
Ils se comportent très bien. Pour l'instant, il n'y a eu aucun débordement. Mmh. Aucun débordement.
Ouais.
Voilà. Sauf qu'ils sont impatients qu'il y ait une solution à leur projet. Quoi. Voilà.
Et aujourd'hui, là, tu peux nous dire où est-ce qu'on est, parce qu'on attend des bagues de...
Non. On est vendredi après-midi. On est dans la salle de sport de Saint-Denis de Cabane,
ouais.
Où s'organise un tournoi de basket 3-3, voilà, avec les jeunes basketteurs de Saint-Denis, peut-être des communes environnantes aussi.
Ouais.
Voilà, donc dans un esprit convivial. Voilà.
Ok, cool. Eh ben, merci.
Voilà. De rien.
Et donc, ben voilà, cette interview, il en dit un peu plus sur la situation à Saint-Denis de Cabane. J'ai pu parler avec des migrants qui étaient là, mais broudouillaient plus parce que moi, je parle pas du tout arabe et on parlait ni l'un ni l'autre très bien anglais. En tout cas, effectivement, il a confirmé la manifestation. Il a confirmé que du coup, quelques personnes avaient reçu des documents validant en fait pouvant leur demande de regroupement familial en Angleterre, donc ils étaient repartis. Donc là, on entend dans l'interview qu'il y en a 12. Les autres restaient sur le carreau, sachant qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont aussi décidé de partir parce qu'ils voyaient l'impasse se profiler. Ils sont plus que 49 apparemment dans le centre, ils étaient dans une situation de protestation car en fait les motifs de refus sont pas vraiment clairs et sont pas en tout cas individualisés, en tout cas c'est ce que la personne m'a dit. Ils ont dit juste que ils ne correspondaient pas et ça n'allait pas aller par rapport aux critères anglais. Du coup la préfecture et le centre, l'association dit laisse miroiter une éventualité de solution avec l'Irlande, qui fait pas partie du Royaume-Uni, sachant que de toute façon ça va être de toute façon très très compliqué et du coup surtout l'assaut là, les personnes qui gèrent le centre en partenariat avec la préfecture, leur but là c'est de faire que ils soient soit réorientés ici, soit réexpulsés en Italie ou ailleurs, et du coup en fait elle essaye de bloquer, elle bloque leur situation et surtout elle essaye d'étouffer les mécontentements qui apparaissent. Après même étant bien même ils demanderaient la situation de mineurs isolés en France et demanderaient du coup l'asile ici, et c'est un parcours tout aussi compliqué, notamment fait avec des tests osseux, et on reviendra dessus tout à l'heure. En tout cas, là, la situation, elle est vraiment compliquée. Et pour autant, migrants, ils s'auto-organisent et même isolés, même dans un petit village au fin fond du Charolais, même loin de tout, dans des situations compliquées, ils se sont organisés et ont manifesté. Les mouvements de protestation de mineurs, depuis tout le temps, ça n'a pas été, c'est jamais pris au sérieux, c'est très compliqué d'avoir des échos de ça et que ça soit vraiment pris concrètement pour une forte revendication et un fort mécontentement. Mais ça dans plein d'autres cadres, que ce soit là dans un centre d'accueil d'orientation ou que ce soit même des révoltes dans des établissements pénitentiaires pour mineurs. C'est une situation qui est quand même plutôt importante et importante du coup aussi à relayer ces révoltes. Et l'accueil est très très compliqué car donc à part Joël, Et les trois mineurs, trois personnes que j'ai pu rencontrer dans la rue, les éducatrices et le service, les chefs de service de l'association qui gère le centre, elle fait le blocus et elle bloque toute diffusion de l'information et essaye d'étouffer en fait les revendications que ces mineurs ont portées en fait. Bref, elles font le jeu des flics et de l'État une fois de plus. Voilà. Tout à l'heure, on parlait du coup de en France comment ça s'est passé pour être mineur et quelles étaient les embûches pour être reconnu comme mineur. On va passer un petit extrait sur les tests osseux. Voilà, c'est un son trouvé sur France Inter. Voilà.
Comment définir l'âge des mineurs isolés étrangers? En tout cas, pas en regardant une radio de la main et du poignet, dit le réseau Éducation sans frontières. L'association a lancé il y a un mois une pétition qui réclame la suppression de ces examens osseux pour les jeunes migrants. Cet appel publié dans Le Monde a recueilli plus de 10 000 signatures. Bonjour Mathilde Deimy.
Bonjour Patrick.
Ce qui est nouveau, c'est que parmi les signataires, on trouve de plus en plus de médecins et de radiologues.
Oui, car ils ont l'impression de se retrouver en première ligne. Dans les faits, ils ne sont consultés qu'à l'issue d'un parcours administratif qui débute avec la vérification des papiers de ces jeunes migrants. On les interroge sur leur histoire. Et si ça ne semble pas crédible, le parquet demande ce fameux test osseux, pourtant imprécis. Katia Chaumoitre est chef du service imagerie de l'hôpital Nord de Marseille.
Les individus ont un squelette qui contient du cartilage quand ils sont petits. Et petit à petit, ce cartilage va s'ossifier et on va obtenir un squelette adulte sans cartilage. Donc c'est cette évolution qui se voit sur les différentes radiographies. C'est la maturation de son squelette, qui n'est pas forcément la même que la maturation cérébrale, que la maturation sexuelle. C'est une estimation, c'est pas une variable quantifiable. On sait que les variations, elles sont très larges. Dans une étude personnelle sur plus de 2500 cas, autour de 18 ans, on a des variations qui sont de plus ou moins 2 ans.
Voilà, 2 ans de marge d'erreur autour de 18 ans.
Mathilde, on sait depuis longtemps que ces examens osseux ne sont pas fiables. Pourquoi plus de médecins signent cette pétition aujourd'hui?
Ils ont le sentiment d'être utilisés pour faire le tri. Le test ne doit se faire qu'en dernier recours, mais en pratique, il est courant pour évaluer les 6000 mineurs isolés étrangers recensés. Et il y a un vrai malaise, selon Serge Lipski, pédiatre et radiologue à Médecins du Monde, signataire de la pétition.
Ça me révolte à deux points de vue. D'abord parce que je ne suis pas médecin pour éliminer et pour donner des sanctions de ce type. Et d'autre part, je prends un risque parce que irradier un enfant, ce n'est pas innocent. Notre politique est d'utiliser les rayons X le moins possible. Et donc le faire alors qu'on sait que cet examen n'est pas fiable, ça me paraît tout à fait illicite.
Ces dernières années, toutes les instances se sont penchées sur le sujet. Défenseurs des droits, Académie de médecine, Comité national d'éthique, elles dénoncent l'utilisation de ces examens rapides et peu chers, toujours en vigueur.
Il faut pourtant bien déterminer l'âge de ces migrants pour décider de leur avenir, non?
Oui, car s'ils sont mineurs, ils sont scolarisés, hébergés en foyer, même s'il manque des places, notamment à Paris. Mais s'ils sont déclarés majeurs, ils peuvent déposer une demande de titre de séjour. L'aide sociale à l'enfant peut aussi les aider, mais elle manque de moyens et le plus souvent, ces jeunes se retrouvent à la rue et sans ressources. L'enjeu est donc d'importance pour Moussa, ce jeune Guinéen dit avoir 17 ans. Trois médecins se sont penchés sur ses radios du poignet et leurs conclusions divergent.
On a donné les deux tests à trois médecins différents. Donc l'un a dit qu'il est majeur, mais les autres ils ont dit qu'il est mineur. Le juge il n'a pas répondu.
Le juge a finalement demandé à l'aide sociale à l'enfance de s'occuper de lui, mais elle a fait appel. Moussa est désemparé.
Ils disent que les papiers sont faux, ils disent que vous n'êtes pas mineur, vous êtes majeur. Donc cela veut dire que nous sommes des menteurs. Comment une machine peut dire ton âge? Ils disent n'importe quoi. C'est dur, oui. Pour l'instant, je suis à l'hôtel, mais demain, je ne sais pas où je vais me trouver.
Un climat de suspicion dénoncé notamment par le GISTI, le groupe de soutien aux immigrés. Selon lui, de nombreux jeunes ignorent leur droit de refuser ou contester les tests osseux. Et il y a bien pire que les radios du poignet, explique le juriste Christophe Dahadouche.
Pour certains, ça prend la forme de l'ossature, parfois la radio dentaire, parfois la mise à nu d'un adolescent.
On va regarder ses seins, sa pilosité, et l'expert devra dire si, au regard de tous ces éléments-là, il s'agit d'un mineur ou d'un majeur. Donc il y a là quelque chose qui, éthiquement et déontologiquement, pose un problème, en plus de l'absence de fiabilité. Ce qui m'est insupportable, c'est qu'on est quand même dans un pays signataire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors évidemment, je ne suis pas naïf, et on n'est pas naïf au JISTI. Il y a des faux mineurs. Mais le mode de raisonnement qui consiste à dire « ils le sont tous » et porter violemment atteinte à la Convention internationale des droits de l'enfant, le respect de la vie privée, l'intimité d'un enfant, au nom de quelques faux mineurs, est là tout à fait critiquable.
Certains pays comme le Royaume-Uni ont choisi de supprimer les tests osseux et de renforcer les entretiens individuels avec les jeunes migrants.
Et oui, donc effectivement... Les tests osseux, ça pose problème et des gens réagissent. On va pouvoir lire un texte qui a été envoyé sur le site nantes.edimedia.org ce 23 décembre. Dans la nuit du mardi à mercredi, le cabinet de radiologie de la polyclinique du Trégor a été pris pour cible, des vitres ont été brisées et la façade taguée d'un bon fils collabo. Cette action visait particulièrement Rémi Bonfils, médecin légiste et radiologue, connu pour pratiquer les tests osseux au service de l'État. Cette action cherche à mettre en lumière les actes de ces flics en blouse blanche, acteurs trop souvent oubliés de la répression. Ces tests aussi intrusifs qu'humiliants comportent des radios pour étudier la calcification des os et du poignet, ainsi que des examens approfondis du corps, palpation des seins, prise de poids, de la taille, examen de la dentition et de la pilosité, et servent à expulser et enfermer celles et ceux qui sont considérés comme majeurs, parce que les médecins sont au service des technologies du contrôle de la surveillance, parce qu'ils servent l'État et ses logiques sécuritaires, parce que sous couvert d'éthique, leur déontologie leur permet de se responsabiliser de leurs actes, parce qu'ils cherchent à faire rentrer nos corps dans des normes sociales et morales, en particulier en ce qui concerne le corps des femmes et la reproduction, parce qu'ils cherchent à étouffer nos déviances à coups de cachetons et de diagnostics, parce qu'ils travaillent main dans la main avec les entreprises pharmaceutiques et tous les acteurs des projets mortifères sur des humains et non humains, rechercher des gènes génétiques, biotechnologies, etc., et cherchent à faire rentrer toujours plus de technologies dans nos vies et dans nos corps, parce qu'ils pensent savoir ce qui est bon pour nous. Ils ne sont pas neutres, ils sont responsables et sont nos ennemis. Le silence et la pacification a assez duré, attaquons-les partout. Les entreprises partout et elles et les entreprises les médecins et les entreprises où ils travaillent. Par ces actes, nous exprimons ainsi notre solidarité avec les personnes qui font le choix de la critique par l'attaque, solidarité et courage aux compagnons qui ont mené l'offensive sans médiation contre les rouages matériels du contrôle des personnes avec ou sans papier. Ils sont aujourd'hui accusés de plusieurs attaques, notamment contre la construction d'un centre de rétention à Bruxelles et contre tout le monde qui les a, et contre le monde qui les a produits. N'attendons pas demain pour mordre la main de celles et ceux qui s'érigent en maîtres et experts. Déchaînons notre corps et nos envies, quelques joyeuses et joyeuses, enragées contre le monde et son monde. Voilà. Du coup, comme on peut le voir aussi dans le son, les questions aussi, elle est amenée du coup en disant en Angleterre, c'est idéal, au moins ils font des entretiens. Sachez qu'en France, des entretiens ont également lieu, mais que ça se passe pas forcément, les critères sont peuvent être compliqués, notamment un mineur rencontré a raconté comment en fait un motif de refus pour lui a été de dire que en fait il connaissait trop bien la situation politique de son pays et que du coup les mineurs étaient censés ne pas connaître la situation politique aussi bien que lui, et donc c'était un des motifs pour lesquels il considérait comme étant majeur. Et oui, car on peut pas être mineur et s'intéresser à la situation politique de l'endroit où on vit et de ce qui nous oppresse. Un autre motif de refus, ça a été le fait qu'il refuse d'être accueilli dans des conditions plus que précaires et qu'il proteste et s'en aille, notamment sur les conditions de la nourriture. Voilà, et effectivement, quand on est mineur, une preuve qu'on est mineur, c'est que on ferme sa gueule et qu'on se tait. Et sachez que la rage et l'envie d'être libre et d'être considéré d'agir, ne dépend pas d'une date de naissance. Allez, un petit peu de musique. Et donc, ben voilà, on va finir par faire un petit point local sur la situation des migrants. Juste donc pour dire que, eh ben, il est important d'être vigilant à ce qui peut se passer toujours et encore à Saint-Denis-de-Cabanes, mais aussi à Val-Fleury, où apparemment la situation des personnes au centre d'accueil et d'orientation pour migrants là-bas, donc c'était des adultes, eh ben, elle est elle aussi dans une situation ben, d'impasse. Donc ben, soyons vigilants aussi à la situation de nous et nos voisins, car ben, lors de ces moments de fête, on a vu pas mal de contrôles, notamment dans la rue de Rome, qui se faisait contrôler avec par la police municipale notamment. Sachez donc à cet effet que il existe un collectif de sans-papiers sur Saint-Étienne et que voilà, qu'il y a des rendez-vous d'aide juridique, d'accompagnement juridique. Il y a un numéro de téléphone pour cet accompagnement juridique, c'est le 07 82 97 30 71. 07 82 97 30 71. Et il y a aussi un numéro d'urgence arrestation, qui est le 06 51 199 766, 06 51 199 766. Donc c'est des numéros que je mettrai aussi sur le blog Joirage et Courage. Ça, n'hésitez pas, si vous voyez une personne se faire arrêter, si l'un d'entre vous sent une situation d'irrégularité être arrêté, n'hésitez pas à faire appel à ce numéro là en tout cas. Faut être vigilant et se soutenir et être un peu au taquet sur ces questions là
Joie, rage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou un voix de l'autre. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et voilà, Joie, rage et courage donc arrive à son terme. Joie, rage et courage est forcément dédié à toutes les personnes qui n'ont rien à foutre de leur âge de naissance, qui ont envie de basculer tout ça et pas d'attendre qu'un pouvoir ou une autorité nous donne des autorisations et des droits et des devoirs par rapport à un critère d'âge. Joie, rage et courage et à tous ceux qui sont dans des situations compliquées dans les centres d'accueil et d'orientation, ou qui sont en galère avec leur papelard, liberté de circulation à tous et toutes. Et puis, joie, rage et courage, spécialement dans ces temps de fête, à toutes les personnes enfermées loin de leurs proches, grosse pensée à tout le monde, à la Talo et ailleurs. Et un gros joie, rage et courage aux amis qui sont qui vivent des moments difficiles en ce moment. Et donc voilà, un gros big up. Nous, on se retrouve le dernier lundi de janvier. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter sur notre boîte mail clapclap@riseup.net. d'aller écouter l'émission et d'aller lire des liens qu'on va mettre sur le site sur le blog de l'émission Joie, Rage et Courage.noblogs.org. Voilà, le lien est aussi sur le site de Radio Duo. Et puis on mettra aussi le numéro de téléphone du collectif de sans-papiers de santé. Et puis, rendez-vous dans la rue, on se laisse pas faire, on a la pêche et on va leur botter le cul.